Votre radio Autre Culture, bonjour. Nous continuons notre entretien avec Philippe Tessier-Ducrot en compagnie de Christophe Bouillot. Autre question technique de Pierre Gac. Utilisez-vous des plugins en insert dans la console ou toujours du hardware ?
Alors moi, j'utilise essentiellement du hardware. J'ai pas tellement la culture plugin, c'est une histoire générationnelle. Hein. J'ai pas non plus. Ça dépend un plugin pour quoi faire. Si c'est un plugin pour faire des autopannes mélangées à des reverbs qui se transforment en ceci, qui passent du jaune au vert, etc., je trouve qu'il y a des trucs super, super drôles et super créatifs. Par contre, si c'est des plugins qui sont censés remplacer le travail d'un vrai compresseur, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Franchement, j'ai fait l'essai. Je reste quand même convaincu du hardware analogique de très loin, quoi. Et puis, c'est ma génération. Hein. Moi, je suis quand même, maintenant, j'ai 47 ans. J'ai appris à faire de l'analogique et du numérique, mais j'ai quand même cette culture-là. Puis, j'aime la culture du... J'aime la machine analogique. J'aime ça. Dans ce qui est de l'ordre du travail sur les grands classiques du son, c'est-à-dire la compression, l'équalisation, qui sont quand même les deux grands classiques, il n'y a rien qui fasse l'affaire, à mon sens, dans les plugins. Et du reste, c'est toujours amusant, même des gens qui en sont convaincus pour autant et qui n'ont pas essayé, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le son qui sont convaincus de choses qu'ils n'ont même pas essayé, c'est quand même assez courant, le discours entre l'analogique, le numérique, le plug, pas le plug... Ben, ça m'est arrivé une fois, j'ai prêté un compresseur analogique à la personne, il était en larmes au téléphone, en larmes d'émotion et en larmes aussi par rapport à son banquier qui venait juste de solliciter pour un prêt conséquent.
Voilà. Donc c'est faux, parce qu'on a eu des discussions entre ingénieurs du son, ouais. Certains jeunes qui ne voient que par le numérique en disant que vous êtes trop vieux pour comprendre l'intérêt du numérique. En fait, c'est un melting pot des deux.
Mais moi, je suis digital, j'utilise...
T'as une console numérique, par exemple.
Bien sûr, non, mais le digital, c'est formidable, il n'y a pas de problème. Et, bon, d'abord, les histoires de trop vieux, trop jeune, ça, c'est des trucs... Bon, ça ne m'intéresse même pas d'entrer dans ce genre de cadre. Je pense tout simplement qu'il y a des outils qui correspondent à des personnes et il n'y a pas de vérité qui se dégage. On a appris le métier en travaillant avec des plugins et on s'est fait un son avec le plugin. Je trouve ça parfait, quoi. J'ai aucun souci. Je vois pas... D'abord, je ne vois pas où se trouve la nécessité de querelle. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de se quereller sur ce genre de dossier. Je ne vois pas l'intérêt. Les gens qui gagnent leur vie avec des plugins gagnent leur vie avec des plugins. Les gens qui continuent à fabriquer, comme Massenburg, des belles machines, continuent à gagner leur vie avec. Donc, je ne vois vraiment pas lieu. Confrontons-nous plutôt pour faire en sorte que les gens achètent plus de 10. Ce sera beaucoup plus constructif plutôt que de se bastonner bêtement sur des sujets pareils en faisant rentrer dans l'équation l'histoire de vieux, jeunes, tout ça, c'est des conneries inintéressantes. Donc, voilà. Moi, j'ai eu quelques plugins. Ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que j'ai fait l'expérience suivante un jour, puisque pour répondre à tous ces jeunes gens, je vais leur dire la chose suivante. Un jour, j'ai mis sur un bus stéréo de Pro Tools un insert plugin de Pooltech. Et j'ai tourné la version avec et sans. Le lendemain matin, j'écoute. J'avais carrément oublié que j'avais fait ça. Et j'écoute l'ensemble du projet et j'arrive enfin à ce morceau-là et j'entends un truc bizarre. Je me dis, c'est bizarre, c'est métallique, ça machin, ça truc, je ne comprends pas. Je saute à la plage suivante où j'avais enlevé le plugin et je retrouve mes petits. Alors depuis, le plugin, je trouve ça super... Pour tout ce qui est animation ponctuelle, recherche d'idées originales marrant, mais par contre, sur le chemin du signal, pour jouer le rôle exact d'un véritable compresseur hardware, je trouve pas. Je trouve que c'est moins bien. Du reste, on sait très bien que rien ne vaut l'analogique pour les extrêmes de l'audio. Hein. Je veux dire, quand on veut vraiment avoir un grave rond, chaleureux et qui cogne si besoin, et qui balance, qui soit physique, et si on veut avoir un aigu qui soit un aigu avec du soyeux, et on sait très bien que c'est dans l'analogique que ça se trouve. Voilà. Par contre, j'adore le numérique pour d'autres choses, entre autres en équalisation, de façon parce que c'est plus neutre, il n'y a pas de rotation de phase, et aussi pour enlever, de façon, par exemple, faire des filtres notch, c'est-à-dire très serré, une fréquence qui gêne, par exemple. J'adore, dans ces cas-là, utiliser un équaliseur numérique qui va n'avoir aucune incidence musicale, qui va être totalement neutre, une résonance sur une contrebasse, une tonique sur une voix. Alors ça, par contre, le digital, au niveau équalisation, c'est imparable. Ça marche super bien. Surtout, ça permet d'avoir des largeurs de fréquentiel que l'analogique ne peut pas avoir. Par contre, après, pour peaufiner l'aspect plus esthétique et plus musical, je pense que l'analogique a encore bien des mots à dire. Et voilà, et puis, ouais, et puis c'est tout. Et puis c'est mon opinion, et pour autant, j'ai pas raison. Hein. Voilà, c'est simple.
Alors, toujours des questions de Pierre Gac. Toujours dans le matériel. Alors, cette fois-ci, nous passons dans le domaine de la console. Quelle est la valeur ajoutée d'une C200 par rapport à une icône de chez DJ ?
Bon, j'en sais rien, j'ai pas dit que j'ai jamais touché une icône. Bon, sauf que DJ, c'est l'icône, c'est le truc Pro Tools, c'est ça?
Oui, c'est la remote Pro Tools. Bah, c'est une remote, quoi. Toi, t'as une vraie console.
Bah, moi, j'aime bien les vraies consoles parce que je suis un vioc. Ensuite, et puis j'aime bien les vieux. Bon, ensuite, pour moi, SSL, ça me fait plus rêver que icône. Hein. J'ai l'habitude de travailler sur des vraies consoles, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler à la souris, je ne peux pas. Alors après, la différence, c'est simplement que j'ai confiance en SSL et j'ai pas trop confiance en Pro Tools. Voilà, c'est lâché. Hein.
Puis tu n'utilises pas Pro Tools.
J'utilise pas Pro Tools non plus, mais j'aurais.
Avoir une télécommande Pro Tools, si tu l'utilises pas, déjà, l'intérêt, il est nul.
Oui, je me sens bien. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de disques avec une SSL 4000. La C200 me rappelle exactement ça. Je trouve que ça sonne très très bien. J'aime bien avoir une console qui soit pas une télécommande. Elle peut travailler en télécommande, mais j'ai pas cette habitude-là. Je me sens pas bien avec des télécommandes de trucs. Mais là encore, je suis pas en train de dire il faut faire comme je dis, quoi. Je dis ce qui me va bien et puis ça me fait rêver. Moi, je me lève, je vais devant ma C200, je me sens bien. Voilà. Alors qu'une icône, ça me touche absolument pas, ça me fait rien du tout. Un ordinateur, ça fait des trucs super, mais ça m'indiffère totalement. L'objet ordinateur, je m'en fous. Ça ne me touche pas. Alors que le mec qui fabrique des vieilles machines à lampe, le gars m'intéresse. Je vais le voir, je discute, voilà. Bon, c'est tout. Mais c'est une histoire de personnalité, après. Hein. Il n'y a aucune vérité là-dedans. Hein.
Sur quoi écoutez-vous vos mix?
Ah, ça, c'est un grand débat. Très intéressant. Parce que ça, c'est une vraie question, par exemple. Beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus importante que la console ou quoi ou qu'est-ce. Alors, moi, j'ai trois écoutes dans ma cabine de mix, plus une écoute, à mon sens, d'extrême qualité dans mon salon. Alors déjà, juste d'un point de vue général, je suis absolument convaincu, et du reste, je suis d'accord avec, s'il faut citer des références, avec Bob Katz, par exemple, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « The Art of Mastering », que je conseille aux auditeurs de lire. Je suis d'accord avec lui qu'on fait un bon mix, à mon sens, sur une bonne écoute, pour être plus général. Non, parce que l'idée d'aller checker dans la cuisine du voisin et dans la salle de bain de la gardienne, c'est super intéressant, mais ça, à mon sens, ça n'est pas fiable. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de mauvaises écoutes qu'il y a de personnes en ce monde. Par contre, des bonnes écoutes sont beaucoup plus proches que des mauvaises. On a beaucoup plus de chances de faire un bon travail sur une écoute neutre que, soi-disant, sur le système. Évidemment que c'est important de savoir que le musicien vous dit « Oui, mais chez moi, ça fait ci, ça fait ça. » Mais de toute façon, dès lors qu'on est sur un système qui n'est pas à peu près fiable et surtout qui n'est pas mis en œuvre de façon correcte, je pense qu'on va travailler toujours par compensation. Alors, on peut faire quelque chose de bien sur l'écoute du contrebassiste dont une est orientée vers la salle de bain et l'autre à une hauteur différente et posée par terre vers la chambre à coucher. Mais par contre, ça sera beaucoup moins pérenne que peut-être en travaillant sur un système référent, déjà. Donc après, moi, j'ai trois écoutes dans mon studio qui sont... Il y a une grande écoute que j'ai faite moi-même, une écoute plutôt moyenne et une petite écoute. Alors, est-ce que je dois développer? Ce que j'ai trouvé de plus fiable à ce jour, pour moi, dans ma façon de travailler, c'est les écoutes intermédiaires de modèle Studio Sound chez Proac, qui sont pas mal utilisées du reste en Angleterre, que je trouve globalement assez fiables. Du reste, tous les copains à qui j'en ai parlé en ont acheté. C'est pour ça que...
On en rencontre de plus en plus.
Moi, je sais que l'importateur, par mon biais, en a vendu 7 ou 8 paires. Je suis aussi un fan Proac. Donc, j'ai la chance d'avoir aussi dans mon salon un gros système Proac Response 4 parce que je suis aussi un petit malade du son, parce que j'écoute de la musique. Je dis ça, je précise, parce qu'il y a pas mal d'ingénieurs du son qui n'en écoutent pas. Donc moi, j'en écoute beaucoup, et beaucoup de choses qui ne sont pas de moi, heureusement. Et le système sur lequel j'écoute dans mon salon, c'est en gros le système, entre autres, qui n'est pas à vocation professionnelle, qui est le système avec lequel bosse Greg Kalbisch à Sterling Sound, par exemple, là-dessus qui masterise. Et ça, c'est un système que j'aime, qui est très critique. Ça sonne magnifique quand le travail est bien fait, mais ça sonne vraiment pourri quand le travail est mal fait. Voilà. Et donc, j'arrive à mes résultats en passant de, en gros, en écoutant sur 3-4 systèmes différents. Pour moi, ce qui est important, en tous les cas, dans une cabine de mix, c'est d'avoir 3 écoutes. J'ai besoin d'avoir 3 écoutes, 3 tailles différentes, 3 possibilités de dynamique pour juger si j'entends bien la même musique sur chaque système, avec évidemment les caractéristiques de chacun. Mais je dois entendre la même, je dois quelque part entendre la même chose. Quelque part, hein, voyez.
On va passer au MIDI et la musique électronique.
Ouais.
Comment pratiquez-vous pour l'électronique dans les projets, utilisation du MIDI, de logiciels dédiés à la création, Cubase Logic, Reason Live?
Écoutez, ça, c'est pas un job auquel je suis habitué. Franchement, j'ai pas grande compétence. J'ai bossé un peu sur Live pour m'amuser sur des projets un peu personnels, mais j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Quand je travaille sur de l'électronique, c'est plutôt en termes de mixage où je travaille sur des projets avec des personnes qui s'occupent de faire de la programmation et charge à moi de faire le mixage entre ces programmations et la partie acoustique. Quand je parle de projet électronique, c'est essentiellement ça. Je me suis amusé un peu avec un logiciel comme Live que je trouve super. J'ai Reason, mais franchement, je suis pas la bonne personne pour parler de ça. J'ai rien à dire d'intéressant. J'ai pas l'expertise. C'est tout ce que je peux dire. C'est des super outils, c'est tout, mais je les connais pas assez. Je les ai pas assez pratiqués, donc ça va être Live. J'ai trouvé ça super. Facile et amusant, mais j'ai rien d'intelligent à dire là-dessus.
Oui, alors on en avait déjà parlé un petit peu avant, c'était une question de Jacques Azubert. Lors d'une prise de son où tous les musiciens sont dans une pièce unique, de quelle manière envisagez-vous le placement des musiciens en cercle sur une scène virtuelle avec panneaux acoustiques proches les uns des autres? Ou si au contraire vous choisissez d'isoler les instrumentistes entre eux avec une cabine séparée? Et quelles sont vos astuces pour recréer un espace sonore vivant et cohérent?
Alors cette question elle est vachement intéressante parce que c'est la question en gros universelle.
Tout à fait.
C'est la question qui consiste à dire comment on fait pour faire du son. Alors ça, c'est une question qui est super large. Elle est hyper large. Je dirais que globalement, les choix à la prise, ils sont fonction, là encore, de la musique et essentiellement de l'instrumentation. Je dirais que si, par exemple, on enregistre des instruments pour être très large, si on enregistre des instruments qui sont de niveau sonore comparable, c'est-à-dire, en gros, si quand je me mets au milieu de la pièce et que les gars jouent ensemble, j'entends la musique, c'est que je n'ai pas de raison que je ne puisse pas enregistrer en les laissant ensemble. C'est-à-dire, en gros, en général, par exemple, si vous avez, par exemple, une batterie et des cuivres, ça se passe bien. On peut très bien, en général, c'est des rapports qui fonctionnent assez simplement. Évidemment, on peut choisir d'isoler la batterie pour des raisons aussi, parfois, qui sont des raisons d'édition future, de montage. Mais ça marche très bien. Alors, on revient sur le statut de la contrebasse. La contrebasse qui doit être à côté de la batterie, c'est une problématique qui se pose et qui s'est souvent posée avec des musiciens, surtout de la génération des gens qui ont la soixantaine. Je pense à Daniel Humer, par exemple. Daniel Humer, son fantasme, c'est d'avoir la contrebasse à côté de lui, comme quand il est en club. Mais ça, c'est pas possible, sauf si, et ça fait partie toujours d'une discussion préalable, si le contrebassiste joue avec un ampli. Donc, mais si on me dit qu'il faut enregistrer la batterie à côté de la contrebasse et avoir un son de contrebasse 100% acoustique, je suis désolé, à moins de cas exceptionnels, je ne peux pas le faire. Là, pour le coup, c'est des lois naturelles. Dans ces cas-là, je demande aux musiciens de me donner un rendez-vous avec le bon Dieu pour redessiner les lois physiques fondamentales. Mais là, il faut isoler. En gros, ça dépend des extrêmes des instruments. Un luth ou un oud en face d'une batterie qui cogne, ça veut dire forcément que le oud, si on veut qu'il soit en face, ce sera essentiellement soit sur un ampli ou sur une DI. C'est tout, c'est simple. C'est l'histoire de rapports instrumentaux naturels, pour commencer. En dehors de la production, en dehors de l'aspect nécessaire de montage. Mais les repices, c'est très très sain si elles sont gérables. Je veux dire, si par exemple, pour sortir un sax, je suis obligé de le pousser tellement que je me retrouve, pour le coup, avec une batterie trop room, c'est que soit j'entame un dialogue avec le batteur, éventuellement possible, genre, est-ce qu'on peut imaginer de jouer un peu moins fort, ou alors je rapproche le sax, mais si tout d'un coup ça devient absurde et impossible, et bien dans ces cas-là, je isole l'instrument. C'est ça en gros la décision purement acoustique, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Après, est-ce qu'ils sont en cercle? Là, il y a aussi une nécessité, est-ce qu'ils ont besoin de se voir? Et en général, oui. Donc tout sera fait à la faveur du confort du musicien d'abord, avant la mienne. Et puis après, si on me demande des choses impossibles, si on me dit il faut absolument que la guitare acoustique, moi j'ai besoin, parce que j'aime bien le batteur, j'ai besoin d'être en face de lui pour jouer, je lui dis, bah écoute, dans ces cas-là, ça va être une guitare DI. Alors si après il se met à pleurnicher en disant, mais oui, mais moi j'ai besoin d'un son de guitare pure, je lui dis, bah c'est pas possible. Parce que c'est vrai, c'est pas possible. Donc après, c'est une affaire encore de confiance. Une guitare acoustique classique ou folle, quelle qu'elle soit, si on veut un pur son acoustique, il va falloir la mettre dans une pièce à part par rapport à une batterie. C'est tout, quoi. Et je ne me veux plus me lutter désormais sur des discussions sans fin et inutiles. Il y a des lois naturelles, c'est celles-là auxquelles on est confronté, c'est tout. Ou alors, on va mettre un micro SM57 devant la guitare acoustique, je ne vois pas le... C'est tout.
En fait, chaque enregistrement est une expérience unique.
Ah, tout le temps.
Et c'est là où on en revient à ce que vous disiez la dernière fois. C'est plus le travail d'un artisan que du travail d'usine.
Bah, si vous voulez, pour moi, c'est un peu... il faut trouver la bonne mesure, mais bien sûr que c'est un travail d'artisan. Je vois pas comment ça... Je vois pas ce qu'on appelle la prise de son. On fait pas de la prise de son quand on prévoit exactement quel micro à quel endroit sans avoir ne serait-ce qu'écouté la musique. C'est pas concevable pour moi. Là, on fait de l'enregistrement. c'est très bien aussi. Hein. Mais là, par exemple, je sais que je vais partir là, pour faire cette séance dont on parlait l'autre fois là, au studio à New York. Je vais essayer de préparer cette séance parce qu'on n'a pas beaucoup de temps au maximum, mais je vais aussi avoir besoin de voir un peu comment ça sonne et de voir sur place, parce que sinon, je ne vois pas à quoi ça sert de fabriquer des micros différents. Enfin, je veux dire, la prise de son, c'est ça. C'est comme la photo. Je veux dire, un mec qui est photographe va pas décider comme ça arbitrairement qu'il va mettre tel type de film, tel type d'éclairage. C'est pareil, la prise de son. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette et tout est dépendant de l'acoustique du lieu, du type de musique, de ce que recherche l'arrangeur. Enfin, c'est ça qui la rend intéressante. Moi, quand je vais dans un studio où on me dit « Dis-nous ce que tu veux, on va préparer le truc à l'avance », je dis « Bien, mais j'aime bien avoir un assistant qui balade un micro devant un instrument. J'aime bien entendre comment sonne la repisse. Parce que c'est une chose que ce que capte le micro. Mais ce qui est super important aussi, c'est de savoir, c'est savoir comment ça se passe dans ce que récupère l'élément faible, l'instrument faible. Parce que vous pouvez avoir une super batterie avec des micros monstrueux, mais si tout d'un coup, quand on l'ouvre, je ne sais trop quel instrument, on se retrouve avec une batterie pourrie tellement... C'est des choix... Enfin voilà, donc c'est chaque cas spécifique.
Là, c'est de manière plus générale. Quels albums mythiques vous auriez voulu réaliser dans votre longue carrière ?
Oh bah, y a les albums mythiques, on pense... bon, évidemment, pour moi, il y a entre autres Abbey Road et Sgt. Pepper, des Beatles, qui sont quand même... ouais, pour moi, c'est quand même éternel, quoi. L'autre fois, j'aurais écouté Abbey Road, il y a... Franchement, ça aurait pu être fait avant-hier. Hein. Enfin, ça a pas bougé. Alors, attendez, faut, pour vous sortir d'autres références, ça me vient. Bon, les Beatles, hein, c'est évident. J'imagine qu'on parle de quand on parle d'albums mythiques, on fait référence à des albums d'autres époques, peut-être. Je sais pas forcément.
Oui.
Bah, je pense à ça parce que ça, c'est vraiment universel. Hein.
Ou des sons qui vous ont particulièrement touché et que vous auriez aimé faire.
Il y a des grands maîtres dont on bénéficie ou dont on subit l'influence. Il y a les grands enregistrements classiques des grandes époques, Decca, je trouve, les années 50-60, qu'on peut aujourd'hui entendre aussi, tout ce qui est dans le classique, les Mercury, Living Presence, tout ça, c'est des trucs absolument exceptionnels. Après, il y a des sons qui nous ont tous frappés, il y a toujours des très fortes personnalités, Rudy Van Gelder, il y a quand même des trucs très forts... Quand on écoute dans des bonnes conditions les rééditions vinyles, qu'aujourd'hui on s'aperçoit même qu'il y a des distorsions artistiques qui sont peut-être soit l'attaque de bande trop, etc. Il y a évidemment des personnalités majeures qui ont carrément inventé du son, du genre comme Manfred Eicher avec le label ECM. C'est des grands inventeurs qui ont donné à chaque fois, qui ont été au-delà du son, qui ont inventé une nouvelle musique. Voilà, bon, moi j'adore, j'ai lu le bouquin de Geoff Emerick, donc, qui a été l'ingénieur des Beatles. J'adore cette histoire, je la trouve super belle. C'est très intéressant. Dark Side of the Moon, Pink Floyd quand même, c'est un sacré truc ça. Voilà, après il y a des gens, les gens qui vivent des aventures avec des groupes comme Radiohead, c'est super intéressant aussi, voilà. Voilà ce qui me vient comme ça, il y en a plein d'autres. Hein. Enfin, voilà, ça c'est des albums mythiques, voilà, c'est parfaitement normal qu'ils le soient, c'est imparable, ça sonne toujours terrible. Ouais, Michael Jackson aussi, il y a des trucs de thriller. Mais bon, vraiment, pour moi, Abbey Road, c'est un son très mystérieux. Hein. J'ai jamais su comment... La texture sonore est très particulière, super belle, super confortable, précise, douce, et en même temps efficace, c'est très particulier. Geoff Emerick dit que c'est parce que c'était la première fois que j'utilisais des consoles à transistor.
Je fais une petite parenthèse pour dire que Geoff Emerick, normalement, sera à Paris pour les rencontres de la création sonore qu'organise notre copine Gisèle Clark, qu'on a reçue ici. Il va venir pendant les deux jours de.
J'aimerais bien pouvoir me prosterner devant lui.
Et il va venir faire des conférences, boire un verre et puis faire des séances de dédicaces de son livre. Donc voilà, rendez-vous, si je me souviens bien, c'est le 26 et le 27 mai 2010.
Écoute, ça, moi j'adorerais.
Ce sera enregistré et rediffusé sur Audio People.
Génial.
À la suite de ça. Mais voilà, petit coup de pub pour les copains qui organisent des choses intéressantes.
Ah bah carrément. Non, puis en plus j'aime bien ce mec-là parce que c'est pas non plus c'est pas la superstar, c'est un gars c'est une super belle histoire. Enfin, il vous racontera. Vous savez, il a commencé à bosser avec eux à 18 ans. Ils avaient le même âge, quoi. Ils ont complètement révolutionné. Ils n'ont pas respecté les habitudes d'Abbey Road. Enfin, ouais.
Ça d'ailleurs donné lieu à quelques sketchs dans les studios quand les patrons ont découvert la façon dont ils bossaient. Pareil, qu'il y a eu quelques...
et si vous voulez, les Beatles quand même. Moi, j'étais fan des Beatles à 12-14 ans. Puis après, il était de bon ton de dire « Bon, il y a d'autres choses. » Et puis en même temps, à chaque fois que j'y reviens, je discute avec des amis de ma génération. On prend une baigne à chaque fois. Hein. vous amusez à faire une expérience, vous écoutez la face B d'Abbey Road, vous mettez juste 8 dB de plus que sur un disque de Radiohead, vous avez tout est déjà pratiquement, tout est là. Hein. Tout est là. Hein. Tout est là. Hein. Ça fait très très mal.
Dernière question, beaucoup plus générale. Comment voyez-vous l'avenir de la production de musique avec la gratuité et le piratage des CD?
Ouais, pas terrible, pas brillant. Hein. Bon, je suis pas un très grand spécialiste de tout ça parce que j'y comprends pas grand-chose. Du reste, j'ai au moins le mérite de l'avouer parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y comprend grand-chose. Je pense qu'on est en train de vivre la résultante de tout un tas de conneries qui ont été faites. Bah déjà, c'est très difficile de produire des disques de jeunes gens aujourd'hui, nouveaux, parce que c'est vrai que déjà, il y a eu toute l'exploitation des catalogues, des grands d'autres temps. C'est sûr que si je trouve l'intégrale Frank Sinatra à 5,70€, bah, ça ne va pas être évident de défendre X ou Y d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours pas compris, vous pourrez peut-être m'expliquer, hein, mais j'ai toujours pas compris comment les musiciens de demain allaient être rémunérés, ça je sais pas. Je sais qu'on m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes gens, et enfin, ma foi, je sais pas s'il faut dire tant mieux, tant pis pour eux, qu'ils peuvent disposer de la musique entièrement gratuitement. Si c'est le cas, je sais pas, très sincèrement, si j'étais plus intelligent, que je dirais peut-être quelque chose de productif, mais j'ai rien à dire de productif, si ce n'est que je vois pas ça d'une façon très très positive, ça m'inquiète un peu. J'aimerais pas commencer ce métier à 20 ans aujourd'hui. Parce que je pense que ça va être de plus en plus difficile, me semble-t-il, d'être à la fois, de continuer à être un créateur en essayant d'en vivre à peu près décemment. Je pense qu'il y a eu des gros abus des maisons de disques, des gens qui ont très 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 bien vécu, avec pas mal d'abus, beaucoup de gens. Enfin, bon, j'ai pas envie d'être méchant, j'ai pas envie d'être polémique, mais il y a vraiment eu de l'abus, il y a vraiment eu des gens qui ont gagné beaucoup beaucoup d'argent, qui ont vraiment pressurisé. Là, je sais pas trop où on va. Moi je sais que j'aime toujours acheter des disques, j'aime bien l'idée qu'on puisse télécharger et avoir 253 000 trucs sur un iPod ne m'intéresse absolument pas, c'est un concept dont j'ai rien à foutre, qui ne m'intéresse même pas. Je préfère la qualité à la quantité, d'autant plus que je pense pas qu'on puisse découvrir une musique un tant soit peu de façon intéressante en ayant 2000 références dans son truc. Moi j'ai des jeunes enfants, donc je vois un peu comment ils fonctionnent, mais ils s'intéressent quand même de la musique un peu plus près. J'ai passé une fois une soirée chez des gens qui vivaient la musique de façon moderne, ils avaient téléchargé tout un tas de trucs, j'ai entendu que de la daube pendant toute la soirée, dans des conditions épouvantables, c'était nul. Les personnes que je connais autour de moi, qui sont des vrais mélomanes, restent quand même des gens qui sont attachés à l'acte d'achat et à la véritable envie d'aller vers tel ou tel artiste. Donc j'ai une vision des choses pas très optimiste, très franchement. Je ne sais pas trop où on va. Du reste, si quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer, ça m'intéresse vraiment, parce que c'est vrai que pour trouver encore le courage de faire des choses et tenter d'y croire un peu, je suis obligé parfois de faire un peu l'autruche, quoi. Je suis obligé de me dire, bon, bah, on va bien y arriver quand même. Hein. Mais en même temps, je vois pas mal de portes qui se ferment. Je vois pas mal de musiciens aujourd'hui qui sont des gens super intéressants, qui ont des trucs super, qui n'arrivent plus à vivre de ce qu'ils font, quoi. Et d'un autre côté, on me dit que la musique, ça va être gratuit. Je vois pas où est l'issue. J'ai l'impression, de toute façon, le seul truc qui me rassure, j'ai l'impression que tout le monde est paumé. Même les décideurs du haut des tours, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils sont paumés. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience lente. Va-t-elle être efficace? De grosses conneries qui ont été faites. De grosses bêtises qui ont été faites. Je ne sais pas où on va.
Quelque chose qui m'a étonné, c'était, enfin, on le sait parce que les compressions ne sont pas les mêmes. J'ai écouté des albums que j'ai en CD ici. Je les ai réécoutés sur Internet. Oui, ouais. Et on a l'impression, c'est sûr, d'avoir deux albums différents.
Oui, oui.
Et il est évident que si je n'avais écouté cet album que sur Internet, je n'aurais jamais fait le pas pour acheter l'album, parce que sur Internet, il ne me plaisait plus.
Oui, oui, ben ça, c'est... Oui, je suis total... Bah, écoutez, c'est marrant parce que c'est une conversation qu'on a eue récemment avec des jeunes, un jeune groupe avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, qui me disait, oui, mais alors quand on écoute sur Internet, machin... Alors moi, ce que je leur dis, écoutez, si Internet devient le véhicule principal, et ben dans ces cas-là, charge à la nouvelle génération qui arrive, bah tiens, voilà une mission intéressante et exaltante pour les jeunes ingénieurs du son qui disent que le numérique, il n'y a que ça de vrai. Moi, je dis super, mais dans ces cas-là, qui nous trouve la matrice qui permet de détourner les problématiques induites par la diffusion sur Internet, parce qu'il doit bien y avoir quelque chose qui se passe au niveau du traitement du signal. Quand vous discutez avec des gens comme Bob Clearmountain, par exemple, le fameux ingénieur du son américain qui fait beaucoup de grosses prods, quand il fait un disque, il se renseigne de comment il va être, de la manière avec laquelle il va être promotionné, la radio. Et dans ses mix, il essaye d'anéantir les effets pervers de la diffusion de la radio. Vous me suivez ? Au même titre que quand vous faites une musique de film, par exemple, qui ensuite doit être diffusée avec les moyens Dolby ou DS ou machin, les gens qui font ça pour s'y retrouver une fois dans la salle, ils mixent avec le retour du son qui va être in fine. Mm-hmm. Alors moi, je dis à tous les jeunes gens qui adorent les plugins, ben je les félicite, je leur dis, là, voilà une tâche exaltante. Et bien, qu'ils essaient de se démerder pour nous procurer à nous autres, les vieux, et à eux-mêmes, en passant.
Oui.
Et bien, la matrice qui va nous sauver, c'est-à-dire, procurez-moi ce qui va me permettre de faire une version, par exemple, disque, pour les quelques rares comme moi qui aiment encore le disque, et la version radio, dans le respect de la promotion des artistes, de façon à ce qu'on puisse faire un mix spécifique Internet qui détourne, contourne, que sais-je, les effets pervers de ce type de diffusion. Je veux dire, on envoie aujourd'hui des sondes sur Mars, on est en train d'envoyer des sondes sur une planète, on m'a dit hier, là, qui se trouve, je ne sais pas combien de kilomètres, pour aller découvrir une planète où on aurait trouvé de l'eau. On doit bien être capable de faire en sorte, quand même, c'est assez élémentaire. Ça va pas de la, c'est pas de l'informatique dramatique, quand même, tout ce qui concerne le son, c'est quand même pas... Ça va, c'est quand même... On n'est pas des grands scientifiques, c'est quand même assez basique, les mathématiques, les physiques, ça, c'est quand même du basique. On n'est pas dans le nucléaire, on n'est pas à Saclay, on n'est pas à Polytechnique. Bien, que ces jeunes gens se mettent à bosser ensemble, intelligemment, qu'ils arrêtent d'abord de se gargariser, de croire y être arrivés parce qu'ils ont fait un vague petit tube qui a marchoté pendant 3h moins le quart, déjà, hein, qui s'inscrivent un peu dans la pérennité, la continuité, essayer de fidéliser les artistes, et puis bah, qu'ils nous trouvent une solution. Moi, je ne suis pas capable, je le dis humblement. Alors, alors là, pour le coup, parce que ça, c'est beaucoup plus important, que, à mon avis, que de se battre sur le hardware ou le machin ou le truc. Parce que ça, c'est des discussions du passé. Aujourd'hui, si on veut sauver un tout petit peu l'envie qu'ont les mélomanes de continuer à s'intéresser à la musique de demain, c'est-à-dire à passer par les systèmes de diffusion prétendument modernes, globalement pourris, hein, et ben, qu'on nous trouve des solutions pour faire en sorte que quand moi je mixe un disque et que je sais que ces jeunes gens, parce que c'est parfaitement normal de vouloir être intégré à la société dans laquelle on vit et envie de pouvoir la faire entendre à leurs copains ou à leurs copines en faisant « Tiens, regarde, on est sur Internet, pleuf, pleuf, pleuf », et bien de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose et qu'on arrête d'accepter qu'il se passe des trucs dans telle ou telle radio où les mecs ne respectent même pas les œuvres qu'ils reçoivent et qu'on trouve des façons de faire des mix spécifiques. Et moi, je serais ravi dans ces cas-là. Ce sera déjà pas mal. Donc voilà, que tous les petits génies du numérique se mettent, relèvent les manches, et voilà. Alors là, comme les mecs à l'époque, avec l'analogie, qui, dans le studio machin, faisaient leur propre magnétisation. Ça. Alors ça, le numérique, il y a les effets pervers, et puis bon, bah, on peut essayer de les solutionner, un petit peu. Mais le problème, c'est que ça n'intéresse plus personne. C'est qu'il n'y a plus de culture du son aujourd'hui. On s'en fout. Ils s'en foutent complètement. Donc, d'où mon global pessimisme.
Très bien, ben nous allons terminer cette émission sur les derniers mots de Philippe.
Bon, je ne voudrais pas que ce soit pessimiste le dernier mot quand même. Hein.
Oui.
Quand même, on fait un beau métier et il y a encore des gens qui adorent la belle musique. Et je pense que, bon, attention, hein, je suis pessimiste par rapport à, surtout par rapport aux jeunes artistes. Quoi. Je pense que ça va être dur, ça a toujours été, mais bon. Mais je suis optimiste aussi parce qu'il continue à y avoir des gens qui adorent le son et puis des fois ça vaut le coup de leur prendre la main et de les amener à écouter dans des bonnes conditions et de découvrir des choses et puis de, voilà, il y a toujours des gens qui aiment le son, Dieu merci, ils sont rares, voilà. Moi j'ai, comme je dirais l'autre, j'aime pas les chiens, j'aime pas les gens qui aiment les chiens, et j'aime pas les gens qui aiment pas les gens qui aiment pas les chiens, mais j'aime bien les niches. Et okay. Donc, je suis sur une niche, et je dis vive les niches, comme la niche vinyle maintenant qui revient.
Oui, je voulais en parler justement.
Bah oui. Bah oui, parce que les gens qui écoutent du vinyle, eh ben, ils aiment le son, et ils savent s'embarrasser des problèmes mécaniques de mettre un disque, parce qu'ils savent que ça vaut le coup pour avoir le plaisir. Et donc, c'est une autre approche qui, à mon sens, me correspond plus, c'est-à-dire un peu plus lentement, un tout petit peu moins de choses, mais de meilleure qualité, voilà. Je préfère quand même aller chez mon petit restaurateur d'en bas qu'aller au McDo. Là, maintenant, la musique, ça devient un peu McDo, ça m'emmerde.
Très bien. Merci Philippe d'être venu, d'avoir voulu parler matériel,
oui.
D'avoir répondu aux questions de nos auditeurs.
Bah, écoutez, super, si j'ai réussi à ce qu'ils aient réponse à leurs questions, mais mes méthodes, elles sont très, somme toute assez banales. Hein.
Alors merci à Frédéric Jens, à Pierre Gac, à Jacques Azubert, à Patrick Kubiak pour toutes leurs questions. Merci à Christophe.
Avec plaisir.
À très bientôt.
J'espère, à très vite. Merci
très,
encore.
Très vite.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Autre radio, autre culture, à bientôt. Autre radio, autre culture.